Tout pour investir, le coach.
Le coach qui va peut-être nous faire peur ou nous rassurer, on va se demander si, dans la tempête économique et politique qu'on traverse, est-ce qu'il faut mettre son patrimoine à l'abri? En tout cas, c'est des questions que vos clients vous posent. François-Xavier Seurre, bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes gestionnaire de patrimoine chez Terrae Patrimoine. Bah oui, avec les élections législatives, il y a une tentation de... D'ailleurs ?
Le téléphone sonne.
Racontez-nous un peu.
Ça vous a pas échappé qu'effectivement il y a des élections et un contexte un poil tendu sur le plan sociétal, on va dire, au niveau français. Et aujourd'hui, effectivement, il y a quand même de nombreux Français, alors moi, parmi des clients, ou même des personnes qui sont aujourd'hui pas mes clients, mais qui commencent à poser des questions dessus, qui posent des questions sur le devenir de leur patrimoine en cas d'arrivée au pouvoir d'un parti extrémiste, après on le qualifie comme on veut, que ça soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très 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 présent, on le sent, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de questions, et les gens réagissent beaucoup quand moi je leur pousse de l'information à ce sujet. Et on parle beaucoup de Chypre, on parle beaucoup d'un scénario à la chypriote, c'est quelque chose qui revient, qui je pense est resté un peu dans l'imaginaire collectif.
Vous nous rappelez ce qui s'est passé à Chypre, vous nous emmenez en 2013.
Exactement, Chypre 2013, on est dans l'après, on est dans les conséquences de la crise des dettes souveraines. Donc il y a eu 2008 les dérapages budgétaires liés à la crise de Lehman Brothers, il y a eu la crise financière derrière, il y a eu une crise économique, et il y a la faillite de la Grèce. Et il y a le défaut partiel de la Grèce, de mémoire 2011-2012, c'est sur cette période-là que ça s'est passé, et ça a contaminé l'économie chypriote, parce que l'économie chypriote et les banques chypriotes étaient très dépendantes à la banque grecque. Et il faut voir qu'il y a énormément, donc l'économie chypriote avait une partie bancaire qui était absolument énorme, je crois que ça représentait 8 fois le PIB de Chypre, je crois qu'il y avait un banquier pour 1000 habitants, enfin c'est quelque chose, c'est des proportions absolument délirantes. Et il faut voir qu'il y avait énormément de dépôts à Chypre qui étaient issus d'argent sale russe, pour être très clair, et d'argent sale grec, mais beaucoup d'argent sale russe. Et en fait, lorsqu'on a eu un État qui était pas loin de faire faillite, enfin en tout cas de faire défaut sur sa dette comme venait de le faire la Grèce, il devait trouver quelque chose comme 17 milliards et l'Union Européenne, le FMI, etc. étaient prêts à aider à hauteur de 10 milliards et ils ont eu besoin de trouver à peu près 5 à 7 milliards de plus. Et c'est là qu'il y a eu cette tentation de faire une saisie sur les comptes. Donc dans un premier temps, on a dit tous les comptes de moins de 100 000 euros, on va prendre 6,5%, 6,6, je ne sais plus combien exactement, et au-delà, on va prendre à peu près 10. Là-dessus, il y a eu une négociation, on a dit non, finalement, il y avait une des deux banques chypriotes qui était en grande difficulté, ils ont laissé faire faillite à la banque sur la partie qui était au-delà de 100 000 euros. Et en gros, ceux qui avaient plus de 100 000 euros dans cette banque, ils ont quand même perdu pas loin de 60% de leurs actifs. Donc, c'est quand même énorme. L'objectif, c'était de taper les Russes au portefeuille, on va être très clair, parce que c'était eux qui avaient énormément d'argent. Sauf qu'il y a eu tellement de discussions au Parlement, on va pas se mentir, le temps que Chypre saisisse sur les comptes, l'argent sale russe, il était quand même parti dans les pays baltes depuis longtemps.
Il avait un petit peu le temps de partir. Bon, rappel historique, attention, on n'est pas là pour être des oiseaux de malheur.
Non, surtout pas.
Vous allez surtout nous dire que la France de 2024, on espère, quelle que soit l'arrivée au pouvoir ou la réminiscence au pouvoir du gouvernement actuel, n'ont rien à voir.
C'est ça. Alors, c'est extrêmement important de le rappeler. La France de 2024 n'est pas le Chypre de 2013. La semaine dernière, on a encore placé, malgré l'incertitude électorale, alors je suis pas sûr que les investisseurs internationaux comprennent grand chose aux législatives, mais,
nous, on a du mal, alors.
En tout cas, eux, ils ont acheté massivement la dette française. On a placé de la dette française la semaine dernière, ça a été sursouscrit, donc il n'y a pas de souci de confiance aujourd'hui.
Ça s'est bien passé, il faut le dire.
Ça s'est très bien passé, et aujourd'hui, on regarde tous les jours les niveaux de dette, vous le rappelez extrêmement souvent à l'antenne, et comment ça se passe tous les jours avec les variations de la dette française. On n'a pas explosé aujourd'hui au niveau du taux de la dette. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir extrêmement surveiller, parce que quand on regarde le débat là, qu'on a eu entre les têtes de liste pour les prochaines élections, on parle de dépenses, on parle pas de réduire le déficit public. L'an dernier, on a eu 5,5% de déficit public, on a 110% du PIB public, enfin le ratio de dette sur PIB en France est 110%. Donc on est quand même sur une situation qui est tendue, il y a personne qui parle de l'améliorer aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui inquiète. Et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus qui disent, mais est-ce qu'au bout d'un moment, il ne pourrait pas y avoir un jour un scénario à la chypriote en France? Et est-ce qu'il faut que je place mon argent à l'étranger? Et ça, c'est une question qu'on entend toujours dans ces périodes de tension.
Alors, est-ce que votre réponse, c'est assurance vie luxembourgeoise ?
Ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse pour se rassurer. Parce qu'en fait, ce scénario, on l'a eu en 2017, on l'a eu en 2012. Alors, en 2012, il y avait l'arrivée au pouvoir de François Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance ». Bon, ça, ça fait flop.
Oui.
2017, il y avait la question d'avoir Macron, Le Pen, Mélenchon, Fillon. Tout le monde était à 20%. Il y a eu la question d'avoir peut-être en deuxième tour Mélenchon, Le Pen, qui avait fait très peur. Et c'est le moment, jusqu'à présent, de ma carrière professionnelle où j'envoyais le plus d'argent au Luxembourg en quelques semaines, pour être très, très clair. Et là, ce mouvement, il l'a repris. Très clairement, moi, ça fait 15-20 jours que j'envoie à nouveau beaucoup d'argent au Luxembourg sur les comptes de mes clients, soit qui sont déjà ouverts, soit qu'on en ouvre. Et la réponse des assureurs luxembourgeois aujourd'hui est de dire « Ah, on est sous l'eau. On n'y arrive plus à faire face à la demande. »
À traiter le flux.
À traiter le flux. Aujourd'hui, les flux, ils prennent plusieurs semaines. Parce qu'en fait, il y a une grosse, grosse demande et il y a beaucoup d'argent qui, en ce moment, est en train de partir.
Pour les investisseurs les plus novices qui nous écoutent, ou ceux qui n'ont pas forcément un patrimoine ou une interface avec un gestionnaire professionnel comme vous, qui aurait jamais entendu parler de l'assurance vie luxembourgeoise, rappelez-nous ce que c'est.
Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, c'est une assurance vie exactement comme la française, sauf qu'elle est sous l'administration du Luxembourg. Donc, elle est sous des règles qui sont des règles luxembourgeoises. Donc, c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'on n'est plus placé sous la protection de la France, mais sous la protection du Luxembourg. Donc, on choisit d'aller au Luxembourg, il y a une neutralité fiscale absolue. C'est justement l'intérêt. D'ailleurs, habituellement, on s'en sert plutôt pour les non-résidents. C'est quelque chose qui est très souscrit par les non-résidents, l'assurance vie luxembourgeoise, qui est une neutralité fiscale avec le lieu de résidence où l'on est. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé par les non-résidents et c'est surtout utilisé par les gros patrimoines parce que l'assurance vie luxembourgeoise, pour que ça commence à devenir intéressante, il faut au moins avoir 250 000 euros, on va dire, à placer sur un contrat. On commence à avoir les mains libres et vraiment à pouvoir faire énormément de choses sur de l'ingénierie financière. C'est pour ça, moi, que je m'en sers du contrat luxembourgeois. Je m'en sers pour faire l'ingénierie financière, pour aller mettre du non-coté dans des contrats, pour aller faire des fonds d'investissement dédiés avec une gestion dédiée en titres vifs. Ça, ça devient intéressant quand on a 1 million d'euros à mettre sur un contrat et 2,5 millions de patrimoine financier. Il faut les deux.
En quoi ce n'est pas de l'évasion fiscale ?
C'est pas de l'évasion fiscale parce que c'est parfaitement transparent sur le plan fiscal. Il n'y a aucun avantage à ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg, que ça soit sur le plan de l'impôt sur le revenu ou de la succession. Donc en cas de vie ou en cas de décès, il n'y a aucun avantage. Le Luxembourg est un ancien paradis fiscal pour les particuliers et est toujours un paradis fiscal pour les entreprises. Ça, c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, quand on va au Luxembourg, on y va pour la protection, parce que l'État luxembourgeois aujourd'hui, c'est se dire que si jamais demain en France, on n'a pas confiance dans la France et on se dit il y a un risque de saisie, eh bien si on a des actifs au Luxembourg, eh bien on ne sera pas sous ces questions-là, puisque par exemple la loi Sapin 2 ne s'applique pas.
Rappelez-nous en quelques mots rapidement ce que c'est que la loi Sapin 2.
La loi Sapin 2, c'est une loi qui permet en fait à l'État français, globalement, de bloquer les retraits et les mouvements sur des contrats d'assurance vie français si jamais à un moment il y a une tension. C'est pas si mal que ça en soi-même comme loi. Il y a beaucoup de monde qui dit on veut la fuir, on veut l'éviter.
Notamment pour les sujets de blanchiment.
Alors, oui,
ou de lutte contre le blanchiment.
Ça a été une partie du package. Mais en fait, la loi Sapin 2, ce qui fait peur, c'est le blocage. C'est de dire vous ne pouvez demain ne plus avoir accès à vos comptes. Mais la loi Sapin 2, c'est comme la glissière de sécurité sur l'autoroute. On veut jamais la taper, mais on est content qu'elle soit là. Parce qu'en fait, psychologiquement, ça permet de savoir que demain, si jamais beaucoup de monde veut retirer de ses actifs des assureurs, l'État le bloquera et protégera les investisseurs. L'intérêt du Luxembourg, c'est que demain, il n'y a pas ces règles-là. Et surtout, quand vous déposez votre argent au Luxembourg, vous ne déposez pas vos actifs dans la banque. C'est ça qui est extrêmement important. Dans l'assureur. Vous ne rentrez pas dans le bilan de l'assureur. C'est ça qui est extrêmement important. Demain, l'assureur fait faillite. Vous êtes prioritaire sur l'État pour récupérer vos billes. Et vous pouvez même récupérer l'intégralité de vos avoirs. Vous pouvez vous les faire livrer sur un compte titre. Vous êtes ce qu'on appelle créancier de premier rang. Donc, si vous avez peur de ça, partez au Luxembourg, mais encore une fois, la France de 2024 n'est pas le Chypre de 2013.
François-Xavier, sœur gestionnaire de patrimoine, juste pour conclure là-dessus, vos conseils, vos points d'attention, rapidement pour ceux qui nous écoutent.
Très rapidement, souscrivez un vrai contrat d'assurance vie luxembourgeois. Si vous voulez souscrire un vrai contrat d'assurance vie luxembourgeois, ne souscrivez pas un contrat français réassuré au Luxembourg. Globalement, si on vous conseille un contrat luxembourgeois, vous avez du fonds euro, ce n'est pas un contrat luxembourgeois. Vraiment, ça c'est la première des choses. Faites extrêmement attention aux frais. Quand on regarde uniquement ces questions politiques, géopolitiques, il faut faire attention aux frais parce qu'on peut avoir un empilement monstrueux de prêts. Ça va ressembler en fait à une gestion pilotée en contrat assurance vie français. Donc vous allez
Sandwich de frais,
il faut vraiment éviter ça. L'informatisation est parfois limitée, donc vous pouvez avoir des accès clients qui ne sont pas forcément exceptionnels. Et on va vous demander énormément de choses en matière d'origine des fonds. Comme tous les anciens paradis fiscaux, ils ont tendance à vouloir laver plus blanc que blanc. On a demandé il n'y a pas longtemps à une de mes clientes comment son grand-père avait créé la fortune familiale. On a dû remonter sur 2 générations sur la création de la fortune familiale. Donc soyez prêts à ce que, si jamais vous voulez avoir votre contrat ouvert dans 10 jours, ce n'est pas possible. Soyez prêts à vraiment fournir énormément de documents et ça va prendre du temps parce qu'en plus en ce moment, il y a un vrai embouteillage.
Voilà, ce point sur faut-il et comment mettre son patrimoine à l'abri, toujours en Union européenne, mais du côté du Luxembourg, avec ses assurances luxembourgeoises. Vous étiez assez nombreux et nombreuses à nous poser des questions sur ce sujet. J'espère que François-Xavier y a répondu autant que vous en aviez besoin. Merci beaucoup, François-Xavier Terrail, Patrimoine, avec nous dans Tout pour investir.